Y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour à tous et bienvenue dans Cinérama. Aujourd'hui, on fait le tour de l'actualité cinéma, ma foi, de façon quasi exhaustive, puisqu'on va vous parler de 7 films. Alors toi, Manu, tu as vu les films qui sont les plus attendus, finalement, cette semaine.
Et notamment le film de Steven Spielberg, Pentagon Papers, avec Tom Hanks et Meryl Streep. Et puis, je vous parlerai aussi de The Greatest Showman. Et enfin, de Three Billboards.
Et puis, Vincent vous parlera de Fortunata, film italien, de Sergio Castellitto, ainsi que de La douleur de Emmanuel Finkel. Et pour ma part, eh bien, je vais vous parler de In the Fade, de prix d'interprétation à Cannes cette année. Et on démarre tout de suite avec Véronica, le nouveau film d'horreur de Paco Plaza.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Police, j'écoute.
Aidez-moi ! Aidez-moi,
il faut vous calmer. Décrivez-moi ce que vous voyez.
Il est là !
Véronica est une adolescente sans problème mais qui doit se débattre pour affronter le quotidien. Depuis la mort de son père, sa mère trime dans un café pour survivre et elle s'occupe seule de ses 3 frères et sœurs. Un jour, une séance de spiritisme avec ses amis tourne mal et dès lors, la jeune fille n'est plus la même. Des cauchemars saisissants de réalisme viennent la hanter. Il lui semble qu'une présence maléfique la poursuit et sa famille semble être à la merci d'une créature terrifiante.
Qu'est-ce qui m'est arrivé ?
Tu as fait un malaise.
Tu as voulu faire est extrêmement dangereux.
Peu importe la personne à qui tu veux parler, ce qui compte, c'est qui t'a parlé.
Alors, on a eu droit à Rec 1, petit film réjouissant, faussement immersif, qui avait un peu, à l'époque, réveillé le cinéma d'horreur. On a eu droit à Rec 2, Rec 3, tous les 3 mis en scène donc par Paco Plaza, qui revient ici avec le scénario le moins original du monde, à savoir un film d'horreur qui parle de possession et de spiritisme. Alors, Véronica est adaptée d'un vrai fait divers, ce serait officiellement le seul cas d'activité paranormale reconnu par la police espagnole. Bon, en même temps, on nous sort le même argument à chaque film d'horreur. Et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que Véronica ne va pas renouveler le genre. De toute façon, le film ne fait aucun effort pour cela, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Tous les effets sont très attendus. Chaque scène est prévisible malgré un début plutôt efficace et tendu. Véronica est une allégorie pas très subtile du passage à l'âge adulte qui s'avère, c'est un comble pour un film d'horreur, plutôt ennuyeux. Paco Plaza esquisse quelquefois quelques jolies idées formelles mais sans jamais approfondir sa recherche esthétique, comme si le réalisateur avait tenté de concilier son inspiration et le cahier des charges du film d'horreur classique. Deux choses néanmoins apporte du cachet au film, son contexte, puisqu'il se passe dans les années 90, avec tout ce que cela comporte de pop espagnol et de téléphone fixe, et son aspect social. Les HLM sont filmés comme autant de décors inquiétants, l'absence de la mère forcée de travailler laisse les enfants à la merci des démons, et l'appartement exigu devient un espace cauchemardesque. Hormis cela, le film est très répétitif, les mêmes scènes et les mêmes effets reviennent plusieurs fois, sans que cela soit justifié, sinon par une paresse de mise en scène, et toutes les idées visuelles et les moments d'angoisse sont dans la bande-annonce. Donc finalement, même la fin est un non-événement, c'est tellement attendu et tellement peu surprenant que le spectateur se sent un petit peu floué. Si vous souhaitez donc tout de même aller voir ce Véronica, ça sort en salle le 24 janvier. Et alors, autre film adapté d'un fait divers, mais alors univers totalement différent, Manu, tu nous parles de Pentagon Papers.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
C'est une atteinte gravissime à la sécurité nationale. Ça a fuité du Pentagone ? Les documents de guerre les plus hautement confidentiels.
Le Times détient 7000 pages qui racontent en détail 30 ans de mensonges de la Maison Blanche sur la guerre du Vietnam.
Alors Spielberg a déclaré dans une interview récente du Monde que la liberté de la presse n'a jamais été aussi menacée. Alors il déplore en effet que son pays soit divisé, qu'il n'existe plus d'espace commun et donc plus moyen d'avoir un débat. Alors en s'inspirant d'un fait réel qui agita les consciences au début des années 70, Spielberg trouve là un bon moyen d'évoquer l'Amérique d'aujourd'hui, la figure presque maléfique de Nixon dans le film, toujours filmé de dos, comme une entité abstraite pourrait bien être celle de Trump. Alors le récit dont s'inspire Pentagon Papers est en soi passionnant pour qui s'intéresse au film Dossier dans la lignée des hommes du président d'Alan Pakula. Alors on y retrouve par ailleurs cette ambiance ancrée dans l'imaginaire des cinéphiles avec ses bureaux enfumés, crépitements de machines à écrire, les empilements de journaux, les sonneries ininterrompues de téléphones, les allées et venues de reporters en surchauffe. Alors bienvenue dans le monde passionnant du journalisme vintage.
Ça doit être précieux ce que vous avez là.
Oh, ce sont des documents secrets des Français.
Le New York Times a reçu l'interdiction de continuer à publier des documents confidentiels concernant la guerre du Vietnam.
Si on publie, on comparaît devant la Cour suprême la semaine prochaine.
C'est-à-dire...
Nous pourrions tous finir en prison.
Nixon mobilisera toute la puissance de la présidence. Et s'il existe un moyen de te détruire, tu peux être certaine qu'il le trouvera.
Que se passera-t-il si nous ne publions pas? On sera perdant. Le pays sera perdant. Qu'est-ce que vous comptez faire, Madame Graham ?
Alors, se retrouvant par un concours de circonstances à la tête d'un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef, Ben Bradley, pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New York Times. Alors, un rapport édifiant commandité par le secrétaire de la Défense de l'époque, Robert McNamara, qui met en cause les manœuvres de quatre présidents sur une trentaine d'années destinées à étouffer des affaires très sensibles, et notamment sur l'intervention de l'armée américaine au Vietnam, le gouvernement en place étant absolument persuadé de la défaite. Alors ce scandale, à moins retentissant que l'affaire du Watergate, est l'occasion pour Spielberg de réaffirmer sa ligne de mire en tant que cinéaste. Héritier direct de Frank Capra et de John Ford, le réalisateur D.T. a une foi inébranlable dans la démocratie, dans les valeurs américaines originelles. En auscultant les notions galvaudées, selon lui, à l'heure des réseaux sociaux, de vérité et d'investigation, Spielberg s'en prend certes à la politique actuelle, mais lance surtout une sonnette d'alarme à la population pour qu'elle reste vigilante face à la manipulation, aux conflits d'intérêts et aux mensonges. Alors après un démarrage un peu laborieux, ce film ultra bavard, à côté Woody Allen, c'est rien, c'est assez éreintant sur les 15 premières minutes à peu près. Le film finit par trouver son rythme et sa raison d'être et en devient même passionnant malgré ses défauts et une vision un peu candide du réalisateur sur l'intégrité tenace des journalistes. Alors conteur hors pair, Spielberg est aussi avant tout un grand metteur en scène que l'on apprécie ou non son cinéma. Sa virtuosité éclate à chaque plan qu'il rend hommage à De Palma notamment, lors d'un incroyable plan circulaire lors d'un échange entre McNamara et Katharine, ou lorsqu'il filme le moment où Katharine prend sa décision de publier le rapport secret par un plan en plongée éclairé dans un clair-obscur sublime. Alors Pentagon Papers est à la fois un film intelligent, lucide, sincère et un plaisir de tous les instants pour les yeux. Fidèle complice du réalisateur, le chef opérateur Janusz Kaminski accomplit des merveilles. La lumière qui traverse l'œuvre est splendide, les mouvements de caméra très fluides sont impressionnants et surtout toujours au service d'un récit prenant comme dans un film d'Hitchcock. Certes, la reconstitution chromo des 70s manque d'authenticité, notamment lorsqu'il s'agit des manifestations de hippies, et la musique de John Williams se complète dans des violonnades inutiles. Mais c'est peu comparé à l'incroyable vitalité de ce thriller politique, d'un brio et d'une lucidité rare jusque dans ses naïvetés assumées. Alors quand on se doute bien que Katharine et Ben n'étaient pas aussi exemplaires qu'ils le sont à l'écran, mais Spielberg a bien retenu la leçon de Ford quand il disait « Quand la légende est plus belle que la vérité, imprimons la légende ». Alors phrase qu'il applique à ses héros et non à l'histoire, qu'il traite avec beaucoup de sérieux et de minutie, cherchant à s'approcher au plus près de la réalité historique. Alors Tom Hanks tient bien son rôle, ce qui est pas, je ne veux pas dire ce qui est rare, mais c'est un acteur que j'apprécie moyennement d'habitude. Et Meryl Streep, plus sobre aussi que d'habitude, est crédible en patronne d'un journal bridé par un entourage masculin, acceptant difficilement une femme à la tête d'une entreprise aussi importante. Bref, voilà enfin du bon cinéma populaire avec un sujet et une mise en scène qui se clôt de la manière la plus brillante qui soit par un autre scandale, celui du Watergate. Mais ceci est une autre histoire.
Pentagon Papers, donc, c'est en salle le 24 janvier. On va remonter le temps encore un peu plus pour aller dans les années 40. Vincent nous parle de la douleur.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Entre les films qu'elle a elle-même tournés comme Détruire, dit-elle, India Song ou Jaune le soleil, ou les films adaptés par d'autres cinéastes, comme le célèbre L'Amant hein, de Jean-Jacques Haneau, ou encore Un barrage contre le Pacifique, l'œuvre de Marguerite Duras a fait régulièrement l'objet d'une adaptation. La douleur d'Emmanuel Finkiel est la dernière à apparaître sur les écrans. La douleur est adaptée du livre homonyme écrit par Marguerite Duras en 1985. La romancière y relate en partie, avec des éléments autobiographiques, l'attente pendant l'occupation de son mari résistant Robert Antelme, qui a alors été déporté en Allemagne. Durant cette période, la jeune romancière, qui a alors un peu plus de 30 ans, vit une histoire avec le meilleur ami de son mari, Dionys. Elle devra aussi se lier avec un homme de la Gestapo qui lui promet de tout faire pour aider son mari et dont le but et les sentiments restent flous. Sacré challenge pour Emmanuel Finkiel, dont il se tire brillamment, avec une mise en scène qui, si parfois elle peut apparaître trop voyante, éclaire parfaitement le récit mêlé d'ambiguïté de Marguerite Duras. Le film, qui dure un peu plus de 2 heures, est structuré en 2 parties. Dans la première, nous faisons connaissance avec Marguerite, jeune femme écrivaine qui sait que son mari est dans les mains de l'occupant et qui va tout faire pour savoir s'il est en vie et où il se trouve. Elle fait la connaissance de Rabier, un policier collabo qui aurait tout d'un salaud mais qui décide d'aider la jeune femme. Ses intentions reste flou, ce qui a le don d'agacer les amis de Marguerite qui font partie d'un réseau de résistants.
Je crois qu'il pense que je ne suis au courant de rien. Il me prend pour un écrivain.
Je pense que Dionys, c'est beaucoup trop dangereux. Aujourd'hui, la plupart des réseaux à peine reconstitués sont immédiatement infiltrés.
Enfin, il doit me rappeler aujourd'hui pour nous revoir.
Au revoir, quoi faire?
Je crois que je lui plais.
Il cherche à savoir. Il se sert de vous. Il n'arrive pas à faire parler Robert, alors il vous utilise.
Bien sûr, il nous mettait tous en danger.
Hein. Vous cessez tout contact avec lui.
Pour vous faire discrète.
Je pense au contraire que c'est une excellente occasion. Il faut se servir de ce flic. Aujourd'hui, c'est la seule personne qui nous relie encore à nos camarades arrêtés. À son poste, il peut forcément pas mal de choses. C'est la meilleure nouvelle que nous ayons eue depuis 3 mois.
Ainsi, Marguerite va nouer une relation régulière avec cet homme. Alors que le film avait débuté dans une atmosphère dramatique, Finkiel introduit ce récit et instaure une sorte de suspense. Si Marguerite Duras est incarnée par Mélanie Thierry, tout en nuances, dureté et intelligence, le flic est lui joué par un Benoît Magimel qui se limite à faire passer ce collabo pour un type au contour flou mais épris de littérature, sans doute subjugué par cette jeune femme en quête de son mari.
Chaque fois que je dois voir Rabier, je fais comme si c'était pour être tué. Je fais comme s'il ignorait rien de mon activité. C'est chaque fois, chaque jour. Les camarades ont peut-être raison. Ce collabo cherché par moi a remonté tout le réseau. Il se sert de moi, alors même que je crois me servir de lui. Régulièrement, il me donne des preuves, des gages. Il me permet de faire parvenir quelques lettres, m'informe de certaines décisions allemandes quant aux prisonniers, des conditions de leur détention.
Ce Robert, il dit quoi ?
Il m'a dit qu'il n'était pas malade. Il n'a pas été torturé. Je suis sûre qu'il dit vrai. Il a besoin de cette vérité pour me tenir entre ses mains. Je sais pas. Je vais y croire. Je suis à sa merci et chaque jour, je cours vers lui. Parce que chaque jour, il me rapproche de Robert.
On l'entend, Finkiel imbrique la narration dans sa mise en scène pour mieux nous immerger dans le récit de Marguerite. Après tout, on le sait, il s'agit de mémoires qui ont été retravaillées par la romancière près de 40 ans plus tard. Or, cette voix off permet de mieux rentrer dans les sentiments du personnage principal, qui est de tous les plans, mais également d'instaurer une distanciation entre ce qu'elle vit, ce qu'on voit à l'écran et ce qu'elle pense. Vous êtes plus attaché à votre douleur qu'à Robert Antelme, lui lance son amant Dionys, interprété par un Benjamin Biolay monocorde. C'est là le nœud du film, qui nous engage dans une deuxième partie, alors plus centrée sur les tourments du personnage. Dans celle-ci, Marguerite va vivre un paradoxe. Finalement, on peut perdre une personne que l'on adore et se surprendre à ressentir une peine qui n'est pas à la mesure de tout l'amour que l'on avait pour elle, ni d'ailleurs à la mesure de ce qu'on montre aux autres. On voit bien le combat de Marguerite et d'autres, pour une fois que la France est libérée, bien revoir les siens, mais voilà, Marguerite a-t-elle vraiment envie de revoir son mari? Ne s'abîme-t-elle pas dans une posture? Finkiel, comme le récit de Marguerite Duras, ne nous épargne pas ces questions. Après tout, le réalisateur aurait pu choisir de condamner son personnage, nous le faire apparaître comme un salaud, mais Finkiel prend une autre voie. Il ménage Marguerite, qu'elle soit confrontée à sa douleur, réelle ou surjouée, ou qu'elle soit confrontée au flic, au point de s'éprendre de cette relation, il l'aménage encore dans sa relation avec le fameux Dionys, qui n'a de cesse de l'aider et de voir presque clair dans ses sentiments. Pour montrer le regard de Marguerite sur cette douleur, Finkiel use habilement d'artifices cinématographiques en dédoublant son personnage dans la même image, en le plongeant dans la lumière ou au contraire dans l'obscurité. Tout le film est un dosage précis, méticuleux de dialogue, de narration et lumière porté par des acteurs impeccables. La forme est belle, c'est indéniable, le film nous prend du début à la dernière image, une dernière image d'ailleurs captivante qui clôt un récit mêlant plusieurs genres. Car si le récit est de l'ordre de l'intime, de la crise existentielle, Finkiel n'en oublie pas d'éclairer cette période trouble de l'histoire.
La douleur, c'est en salle le 24 janvier, je vous le conseille également, c'est très réussi. Mélanie Thierry est incroyable dans un rôle vraiment difficile. Autre rôle difficile, celui de Diane Kruger dans In the Fade, dont on parle tout de suite.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Katia mène une existence paisible avec son mari et son fils à Hambourg. Son existence bascule lorsqu'ils meurent tous les deux dans un attentat. Pour elle, les origines turques de son mari ne laissent pas de doute, il s'agit d'un attentat nazi. Mais lorsque les coupables sont arrêtés, que la machine judiciaire se met en marche, le passé de Katia ressurgit, notamment les condamnations de son mari pour trafic de drogue. Et à l'issue du procès, les deux accusés sont libérés. Katia décide alors de faire justice elle-même. Where have you been, my love? Where can you be? And as sure as days come from moments, each hour becomes a lifetime. Alors certes, le film s'appuie sur des faits réels, hein, puisque les attentats néo-nazis à l'encontre des étrangers en Allemagne ont fait une dizaine de morts dans les années 2000. Néanmoins, on ne comprend pas trop ici le but recherché par le réalisateur Fatih Akin. Son cinéma a toujours été très concerné par les thématiques de la multiculturalité, de l'immigration, de l'intégration. Il semble ici avoir abandonné la subtilité qui le caractérisait et opté pour un manichéisme très convenu qui ne sert malheureusement pas son propos, au point que l'on se demande presque comment ce film assez mineur a pu se retrouver en compétition à Cannes. On avait connu Fatih Akin très inspiré avec notamment De l'autre côté, prix du scénario à Cannes en 2007. 10 ans après, en 2017, In the Fade remporte le prix d'interprétation féminine grâce à son interprète Diane Kruger qui est ici de tous les plans. Alors naturellement, son personnage force l'empathie, hein, on ne peut pas ne pas être ému, on souffre véritablement avec elle, mais on a l'impression désagréable d'être devant une performance de la douleur. L'actrice fait poliment ce qu'on lui demande de faire et son jeu n'est pas pour autant très nuancé. Et puis, en se reposant sur une trame dramaturgique ultra simpliste et attendue, à savoir l'amer courage contre les méchants nazis, le film propose un message très discutable. On a l'impression que transformer Diane Kruger en kamikaze relève davantage de la provocation que de la réflexion politique. Le film ne questionne même pas la notion de vengeance ou de deuil. Il s'avère finalement assez confus, en plus d'être décevant. Voilà, In the Fade, je pense qu'on peut faire l'impasse. Ce n'est pas forcément nécessaire de le voir. Néanmoins, il est en salle depuis le 17 janvier.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va garder ça.
Alors là, Manu, on passe à tout autre chose, c'est cabaret.
Je peux pas tout quitter pour suivre le cirque.
Pourquoi pas ? À l'évidence, tu as la fibre show business.
Show business ?
Hein ?
Jamais entendu parler.
Normal, je viens de l'inventer.
La fibre show business, c'est à peu près tout ce que le film The Greatest Showman retient de la personnalité ambiguë de Phineas Taylor Barnum, qui méritait sans doute un traitement plus complexe. Cet entrepreneur perçu tour à tour comme un philanthrope, charlatan, génie de la publicité, artiste, a créé une sorte de cirque tout entier dévoué aux frics. Nains, femmes à barbe, géants, contorsionnistes, hommes troncs et j'en passe. Alors c'est chose faite donc aujourd'hui avec ce film, mais raconter la vie tumultueuse et fantasmée de ce drôle de zigoto à travers une comédie musicale n'est pas l'idée du siècle. Au contraire, dès les premiers plans clinquants, on sait que l'entreprise est vouée à l'échec. Pire, dès que la première chanson démarre, il ne reste plus que deux options. Fuir la salle en se disant qu'après tout, si des gens aiment ça, autant ne pas gâcher leur plaisir. Ou alors se boucher les oreilles. Alors en bon maso, j'ai tenté l'expérience de le regarder de A à Z sans broncher, contrairement à une partie de la salle émettant des soufflements peinés à chaque début de morceau. Non, c'est vrai, hein. Surtout les mecs qui devaient accompagner leurs copines, à mon avis, et qui ont souffert toute la projection. Alors d'emblée, rien ne fonctionne. à cause de cette variété imbuvable aux textes gnangnans et aux arrangements sirupeux, faisant passer des spectacles de Luc Palmondon pour des modèles de sobriété. Alors, The Greatest Showman est une aberration cinématographique dégoulinante de bons sentiments. Ce film ne raconte rien, n'offre aucun point de vue sur les personnages. Les frics ne sont juste que des pantins décoratifs. Et le fameux Barnum, un idéaliste qui a soif de réussite avant de se rendre compte que rien ne vaut le bonheur familial. On peut faire plus subtil comme vision, en fait. Alors oui, cette vision édulcorée d'un personnage, pourtant très contesté dans le milieu artistique, n'est pas ce qui gêne le plus, ni de représenter le critique d'art comme un type cyniste qui ne rit jamais, car au fond, on a un peu l'habitude de se farcir ces stéréotypes risibles, mais inoffensifs. Non, le plus effroyable reste cette mise en scène ultra kitsch, assommante, bourrée d'effets numériques atroces, de chorégraphies approximatives sorties d'un spectacle de la Starac, et de mouvements de caméra virevoltant donnant le tournis, et enfin d'un montage épileptique. Lorsque le générique de fin défile, on est soulagé, mais il reste un sacré mal de tête. Résultat, 2 aspirines pour s'en remettre au moins. Et au bout de quelques heures, la douleur lancinante s'évapore et on se souvient à peine de ce monument de niaiserie totalement desservi par une interprétation catastrophique. Alors Hugh Jackman en tête, affichant pendant 1h44 un sourire béat interrompu parfois par des froncements de sourcils. Je ne l'ai jamais vu aussi mauvais, mais bon... Alors Michael Grassel, réalisateur, marche sur les traces de son maître Baz Luhrmann en réussissant à faire passer ce dernier pour un esthète raffiné.
Eh bien, très bien, n'allez donc surtout pas le voir apparemment. Merci Manu. On va passer heureusement à un film qui va relever le niveau. Vincent nous parle de Fortunata.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Fortunata est une jeune femme habitant la périphérie de Rome, une énergique, une battante, une angoissée, une femme exubérante à la recherche d'un peu de calme, de pas mal d'argent aussi, pour monter son salon de coiffure et en finir avec son travail au noir. Fortunata, qui signifie chanceuse en italien, est aussi la mère d'une petite fille de 8 ans qui n'est pas forcément très heureuse, mais avec qui elle a une relation fusionnelle. Mais le plus gros problème de Fortunata, c'est que les hommes ne sont pas forcément d'accord avec l'idée que tout lui réussisse comme pourrait le signifier son prénom. 3 hommes sont autour d'elle. Il y a d'abord son ex-mari qui ne peut pas accepter le divorce. Massif, toujours en tenue d'agent de sécurité, il montre à chaque séquence où on le voit confronté à l'héroïne l'étendue de sa méchanceté, de son aigreur et de sa violence. Il y a également un ami d'enfance, tatoueur, malheureusement bipolaire, en charge d'une mère, ancienne tragédienne atteinte d'Alzheimer. Et puis enfin, il y a un psychologue, psychiatre, ça je n'ai pas très bien compris, interprété par Stefano Agorzi, qu'on avait vu dans Tous les soleils notamment. Le médecin arrive dans la vie de Fortunata, et bien parce que sa fille doit voir un spécialiste, seul moyen de dénouer l'histoire de la garde de l'enfant. Mais la mère a du mal à lâcher sa fille, et le psychologue, lui, eh bien, a du mal à lâcher la mère. Voyez l'embrouille de la thérapie. Corps élancé, cheveux blonds, mini-jupe de toutes les couleurs, Fortunata arpente son quartier, brasse de l'air mais pas que, elle doit sans cesse dénouer ce qui pourrait nourrir des intrigues de tragédie. Il y a son désir de vie, celui de sa fille et l'attitude des hommes qui l'encerclent. Alors autant d'éléments qui font un film assurément, d'autant que d'autres petits personnages garnissent cette fiction qui oscille entre drame léger et comédie exubérante à l'italienne. La mise en scène de Sergio Castellitto, qui a longtemps joué les acteurs, s'adapte parfaitement à l'énergie de son personnage. Le réalisateur nous gratifie d'ailleurs d'une merveilleuse ouverture, on passe d'un plan large, insolite, des Chinois qui font leur gym, on est en Italie, à l'entrée dans un appartement pour avancer en travelling lent dans le couloir avec des allées et venues de Fortunata devant la caméra qui ouvre et ferme des portes jusqu'à celle de l'entrée qui claque. Alors on dirait du Ettore Scola, pourtant si quelques personnages pourraient nous y faire penser, eh bien c'est plutôt du côté de Mamma Roma de Roberto Pasolini qu'il faut regarder pour retrouver la Rome des quartiers populaires et puis le personnage féminin qui a soif de s'en sortir. Mais autant Mamma Roma abondait dans le mélodrame social, autant Fortunata, eh bien c'est prendre de comédie et d'une certaine légèreté. Mis à part le mari, assurément violent et pathétique, les autres personnages ont tous des instants de comédie à jouer. Le film est rythmé par de nombreuses musiques, plutôt italiennes, hein, mais on trouve aussi Let's Twist Again, par exemple de Chubby Checker, un morceau de Creedence, et puis ce Cure qu'on vient d'entendre. Brillamment mis en scène, héritant d'une lumière toute méditerranéenne dans des quartiers plutôt quelconques, le film de Sergio Castellitto se regarde avec appétit, développant un sens du cadre qui s'accompagne de nombreux mouvements de caméra, des travelling avant et arrière le plus souvent. Sergio Castellitto fait preuve d'une grande maîtrise. Le jeu tout en énergie finesse de Jasmine Trinca, qui est de tous les plans, apporte un plus indéniable. Son interprétation lui a d'ailleurs valu un prix à Cannes dans la compétition Un certain regard, où ce film avait largement sa place. Cet itinéraire d'une battante dans les quartiers pauvres de Rome a également l'intérêt d'offrir aux spectateurs, alors outre la peinture sociale de l'Italie contemporaine, une lecture plus personnelle sur l'inconscient, les rêves refoulés et la quête d'amour insensée. En deuxième lecture, la figure d'Antigone traverse tout le film, hein, donnant encore une autre dimension à cette fiction qui est en salle depuis le 24 janvier.
Fortunata, donc, de Sergio Castellitto. Manu, on va à nouveau parler de Mère Courage. Décidément, c'est le dénominateur commun de l'actu ciné cette semaine. Tu vas nous parler de Three Billboards.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, ça, une blague ou quoi ?
Elle dit quoi, la loi, sur ce qu'on a le droit d'écrire sur un panneau ? Je suppose qu'on doit éviter la diffamation et de dire foutre, pute ou connard, c'est bien ça ?
Ou... anus ?
Alors, je pense que ça ira.
Le point de départ de Three Billboards est astucieux. Mildred Hayes décide de provoquer les autorités locales de sa petite ville en affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. Message concernant le meurtre récent de sa fille.
Mildred Hayes, pourquoi avez-vous mis ces panneaux ?
Ma fille Angela a été assassinée il y a 7 mois et la police est trop occupée à torturer les Noirs pour avoir le temps d'arrêter les vrais criminels. Plus on expose une affaire au grand jour, plus on a de chances qu'elle soit résolue.
Je suis la première à espérer que tout ceci mettra enfin un terme à l'étrange saga des trois panneaux à l'entrée de...
Ça met un terme à que dalle, pauvre demeurée. C'est que le début des réjouissances. T'as qu'à foutre ça dans ton bonjour Missouri, matinale pourrie de mon cul. Pétasse.
Butée, courageuse, pratiquant un humour à froid parfois bien senti, le personnage de Mildred Hayes est admirablement interprété par Frances McDormand, compagne depuis toujours de Joel Cohen. D'ailleurs, c'est bien sur les traces des frangins Cohen que l'Irlandais Martin McDonagh semble s'aventurer en allant disséquer une Amérique profonde qui lui est apparemment étrangère. Alors, il dresse le portrait caustique d'une panoplie de personnages locaux, un chef de la police bourru mais sympa atteint d'un cancer, un publicitaire gay prenant parti pour Mildred et surtout un flic redneck abruti et raciste vivant chez sa mère. Alors ce dernier, formidablement incarné par Sam Rockwell, pose les limites de cette comédie noire plus consensuelle que véritablement caustique. En humanisant artificiellement le crétin congénital et en rendant de moins en moins sympathique son héroïne, qui traîne quelques casseroles, Three Billboards finit par se dégonfler comme une baudruche empruntant artificiellement la voix d'un cinéma d'auteur calibré pour Sundance. Alors à force de trouver des excuses au pire des individus et paradoxalement de ne tirer aucune empathie envers les personnages, Three Billboards passait son idée de départ iconoclaste finit par s'embourber dans une désinvolture agaçante. Alors cette nonchalance n'aboutit qu'à un exercice de style soigné, mais vain, loin de la puissance narrative d'un Fargo. Les Cohen, eux, poussent la noirceur de leur mécanique jusqu'au point de non-retour. En baignant dans un climat, on va dire, en demi-teinte, ni blanc ni noir, ce faux polar sans résolution perd de sa force initiale. Alors si effectivement le film n'est pas manichéen, il n'en reste pas moins superficiel et on reste assez détaché de cette histoire. La lenteur du film ne débouche sur rien, il manque un climat, une folie à ce portrait en creux d'une Amérique rurale, porté néanmoins par d'excellents comédiens et un humour parfois bienvenu, minimum requis de la part de l'auteur de l'agréable Bon baiser de Bruges.
C'est donc en salle depuis le 17 janvier. Et avant de se quitter, Manu, petit bonus, tu nous parles très rapidement du nouveau film de Jean-Claude Brissot.
Nouveau film très fauché par ailleurs. Après le très beau La fille de nulle part, tentative passionnante de fantastique intimiste, Brissot signe et persiste avec Que le diable nous emporte, objet insolite qui oscille constamment entre grotesque et sublime. Alors l'expression de l'art du cochon semble avoir été inventée pour ce cocktail insolite d'érotisme saphique, de contes philosophiques, d'incursions fantastiques, de réflexions sur la foi et le sacré et de vaudeville burlesque. Bref, un sacré foutoir dont on ne sait pas toujours quoi pensée après la projection. Alors ça débute comme un marivaudage à la Romère qui se serait un peu déridé les fesses et ça se poursuit comme un jazz franco contaminé par le cinéma austère de Bresson. La mise en scène est à l'image du film, elle aussi entre inspiration foudroyante et amateurisme gênant. Si on peut tiquer devant les nombreux faux raccords, les approximations du montage, on reste toujours sidéré par la beauté de certains plans et la précision des cadrages. Alors tourné initialement en 3D, Que le diable nous emporte affiche surtout une foi absolue et inébranlable dans le 7e art, quitte à friser le ridicule à plusieurs reprises. Mais ce regard sincère d'un cinéaste oublié passionne davantage que 80% de la production contemporaine.
Merci Manu, et bien vous n'avez décidément que l'embarras du choix parmi ces 8 films dont nous vous avons parlé aujourd'hui. C'est terminé pour l'actu cinéma de la semaine.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
La semaine prochaine, on revient en force avec le cinéma français, n'est-ce pas Manu?
Oui, je vous parlerai certainement des Tuches 3 et puis d'un film américano-japonais au Lucie.
Et moi, je vous parlerai d'un film français, donc Gaspard va au mariage, ainsi que d'un film kirghize, Centaure. À la semaine prochaine.